C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Dans l'histoire, l'histoire avec un grand I, on revient sur les grands événements de l'histoire et les personnes qui ont fait le monde tel que l'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, et c'est un biais bien connu des historiens et historiennes, c'est principalement l'histoire des personnes les plus aisées, les plus riches, qui est remontée jusqu'à nous. Alors que dire de toutes celles et ceux qui ont fait l'histoire ? L'histoire avec un grand I sans pourtant être noble, fille ou fils de roi, empereur ou reine. Prenons l'exemple aujourd'hui de Georges Brummel. Celui que l'on nomme communément le premier dandy britannique n'était ni riche, ni particulièrement beau, ni issu d'une famille noble. Il a pourtant fondamentalement impacté l'histoire, inventant entre le 18e et 19e siècle ce qu'on appelle depuis le costume de l'homme moderne et fut admiré par toute la haute société londonienne et la cour du prince George. Pour revenir avec moi sur Georges Brummel et son histoire, la fine équipe de l'histoire avec un grand I. Bonjour Lauriane Chavez.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Belin.
Bonjour, bien le bonjour, excusez-moi.
Bonjour Julien.
Bonjour, Marel. Bonjour à tous.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, première question peut-être pour débuter cette émission. Comment débute la vie de ce fameux Georges Brummel ?
Elle débute en chanson, puisqu'il naît pendant un bal londonien, un bal populaire de quartier. Il naît par surprise, il naît un petit peu prématurément, donc ses parents ne s'y attendaient pas, et donc il se retrouve au milieu de cette fête, et ça a impacté le reste de sa vie, évidemment.
D'ailleurs,
excusez-moi,
oui, c'est une surprise, une double surprise, parce qu'en plus il n'était pas prévu, donc la grossesse elle-même n'était pas prévue, et derrière il est né plus tôt que prévu, donc double surprise de Georges.
Double surprise, quelle était l'occasion pour laquelle on organisait un bal ?
C'était la fête de quartier, hein, dans les quartiers ouest de Londres. Près de, vous connaissez ce fameux quartier ouest,
Greenwich,
Greenwich, tout à fait, la fête de quartier de Greenwich.
Il y a encore de belles soirées qui s'y déroulent, hein, régulièrement.
Bien sûr.
C'est un quartier très animé, parce que je ne sais pas si vous y êtes déjà passé faire un tour.
Avec Alexandre, on est allé en vacances.
Oui.
Ah oui, des très belles photos que vous avez ramenées d'ailleurs.
Vous avez vu une photo ?
Oui, sur les réseaux sociaux.
Et donc oui, pour cette fête de quartier 1778 à Greenwich, naît le 7 juin le petit Georges Brummel, qu'on surnommera de Surprise Child, par cette double surprise.
L'enfant surprise, traduit pour les moins anglophones d'entre nous.
Mais c'est vrai qu'on oublie des fois, mais...
C'est l'habitude,
ouais,
c'est normal.
Mais c'est ça, on a un peu la tête dans le guidon, nous, on enregistre beaucoup et... Parfois, on oublie quelques règles essentielles
Et encore, on vous a passé les épisodes dans lesquels Alexandre ne parle qu'en italien, complètement omnibulé par son sujet. Il est multilingue et il passe de l'une à l'autre avec grande aisance.
Une belle culture des pages, ouais.
Je comprends pas pourquoi on les a enlevés ces épisodes d'ailleurs, mais bon, c'est...
On passe à la sortie de son radio française, Alexandre.
Ok, ouais, je comprends.
Donc, italien, français, anglais. Revenons à notre sujet avec le petit Georges Brummel qui naît donc au milieu d'un bal. Qu'est-ce qui explique qu'on le retrouve avec cette place aussi particulière dans l'histoire, quelques dizaines
d'années ? Alors, il naît au milieu d'un bal. Il faut savoir que pour autant, donc cette naissance pas prévue n'était pas prévue non plus dans ce milieu parce que ses parents étaient au service en fait, hein, dans ce bal, oui. Ils n'étaient pas en train de festoyer, ils étaient en train de travailler. Donc lui finalement a grandi dans un milieu beaucoup plus défavorisé que ça, mais symboliquement il est né dans cet endroit où finalement il ferait carrière plus tard puisque le costume tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, est né de cette naissance surprise dans ce lieu mondain.
Et oui, comme dit Lauriane, ses parents étaient tous les deux des serveurs pour John Winchester, qui était l'inventeur de la Winchester, le fusil qui habitait à Greenwich. Et donc c'est lui qui a organisé la fête de quartier de Greenwich. Et donc ses parents sont serveurs, mais malgré tout, le petit Georges Brummel va réussir à monter très très vite dans la noblesse parce que ce surprise child, les nobles l'adorent. Ça a animé la soirée comme jamais, cette naissance inattendue. Et les nobles, il est devenu presque un enfant star.
Ah bah c'était une légende, oui, il était très connu effectivement. C'est the surprise child, tout le monde savait dans le quartier qui c'était. Oui, oui.
Du coup, est-ce qu'il est pris sous les ailes de certains nobles? Est-ce qu'il va pouvoir sortir de sa classe sociale défavorisée lors, par exemple, de sa scolarité?
Non, pas non plus, parce qu'on le voit comme une mascotte au début, en fait. C'est le surprise child, et il est là pour nous faire rire. On l'invite au bal, mais on s'attend à ce qu'il nous fasse une petite surprise. Alors rapidement, il en joue, hein, il ramène des pétards, il apprend des tours de magie pour surprendre les invités du bal. Mais au bout d'un moment, les nobles, la haute bourgeoisie anglaise s'en lasse, hein, et donc il doit se renouveler.
C'est de là que naît sa créativité, finalement. Parce qu'effectivement, habitué à être célèbre, depuis son enfance, il vit très très mal la chute de cette notoriété. Et du coup, ça le rend très créatif pour renouveler effectivement cet intérêt qu'on lui portait depuis le début de sa vie.
À partir de quel âge environ on voit ce changement de posture du coup qui est donné à Georges, et à partir de quel moment est-ce qu'il doit comme ça développer cette nouvelle créativité, vous dites, pour continuer à exister aux yeux des autres finalement?
Après 10 ans, je pense, à ce moment-là. Notamment une de ses plus grandes créations, le Froggin. Vous voyez ce costume intégral, cette espèce de pyjama intégral.
C'est le pilou-pilou, oui.
Le pilou-pilou, voilà.
La grenouillère. Hein.
La grenouillère, voilà. Alors, ça a bien des noms. Hein. D'ailleurs, ça a été appelé pendant très longtemps la brumelière. Je ne sais pas si vous le savez.
Je ne savais pas.
Si, moi, je... Oui.
Je voyais un petit doute dans votre regard, Julien. Ça s'appelait la brumelière, au début.
C'est les gens qui ont une petite appétence pour cette tenue. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai beaucoup porté en hiver. Et donc, on sait ce genre de choses, forcément. Hein. C'est très confortable.
C'est surtout la matière qu'ils mettent dedans qui est...
Moi, je me sens comme un gros bébé. Et vraiment, ça me remet dans un état de zénitude incroyable.
Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous dites ça, Lauriane. Parce que cette histoire de... On a l'impression d'être un gros bébé à l'intérieur. Et c'est ça que Georges Brumel avait cherché avec cette première invention.
Bah oui, parce que lui-même était un gros bébé lorsqu'il est arrivé au bal, au premier bal anglais à Greenwich, et donc il voulait redonner cette image aux nobles, de réapparaître comme un gros bébé et pouvoir se faire sentir aux nobles qu'est-ce que c'était d'être un gros bébé à un bal.
Refaire le coup du surprise child.
Exactement.
Ouais, Georges, c'est quelqu'un de, faut pas oublier, hein, de névrosé. Enfin, je veux dire, effectivement, hein, quand on est un gros bébé célèbre, comment vieillir en restant un gros bébé? C'est toute la question de la vie de Georges Brumel.
Sur bien des aspects, il ressemble étonnamment à Jordi, je trouve.
Dur d'être bébé, oui.
Et toute la vie de Georges Brumel sera marquée par par le jour de sa naissance, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il s'intéresse aux vêtements. Vers ses 11 ans, c'est sa manière de se redistinguer. Il va commencer à apprendre la couture et à se confectionner lui-même des vêtements. Donc on a parlé de la brumelière, mais ensuite il va développer ce côté-là et faire plusieurs costumes, donc des déguisements au début. Il va se déguiser en arlequin, il va se déguiser en le prince Georges, et c'est comme ça qu'il va finir par inventer le costume tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Donc en fait, c'est une passion qui vient chez lui très tôt. Enfin, c'est rare quand même de voir des enfants à 11 ans se passionner pour la création de nouvelles pièces vestimentaires, d'autant plus quand il s'agit de vraiment créer de la nouveauté, ce qui est précurseur dans son milieu.
Alors, il y a la passion, mais il y a le sens du travail aussi. Hein. Faut pas oublier d'où il vient.
Oui.
Donc la couture apprise par sa mère,
oui,
et qui elle-même allait reconfectionner des nappes dans le milieu de la bourgeoisie. Et donc lui, il apprend tout ça sur le tas. Évidemment, il apprend donc à se faire ses costumes, mais il vivote, hein, il va un petit peu dans le milieu du théâtre, il fait des costumes, etc. Il apprend beaucoup de choses sur ça. Mais très vite, il veut revenir à ce milieu d'où il vient, hein, d'où il vient dans sa tête, hein, toujours la névrose, de milieu de la bourgeoisie. Donc il va se faire embaucher très vite, il va travailler très jeune, évidemment, ça se faisait beaucoup à l'époque, et il va travailler dans ces milieux bourgeois et va remplacer régulièrement sa mère pour multiplier les clients, hein, vous voyez bien. Et c'est comme ça que petit à petit, il va se faire remarquer dans un milieu beaucoup plus bourgeois.
Et notamment celui de la mode.
Et c'est là où il va rencontrer Jack Suit, qui va avoir un impact décisif sur la suite de la vie de Georges Brumel.
Alors justement, avant de creuser cet impact décisif avec Jack Suit, petite pause musicale.
Elle danse les yeux fermés toutes les nuits.
Et ben nous revoilà dans l'histoire avec un grand I après Dandy de Alain Souchon. On se quittait juste après avoir introduit ce personnage clé pour la vie de Georges Brumel, qui est Jack Suit. Est-ce qu'on peut en dire plus ?
Jack Suit, oui, qui est un des meilleurs amis de John Winchester. Il est une des grandes figures de la mode londonienne à cette époque, hein, dans les années 1800, fin des années 1800. Sa famille est très célèbre puisqu'ils ont inventé le jean, voilà ce célèbre habit qu'on connaît tous aujourd'hui. Hein.
Oui. J'en porte un tout de suite.
C'est
vrai. Bah, je l'adore.
Ouais, il est très beau, bleu.
Il est bleu. Ça tient bien dans le temps. Quand c'est un vrai jean, ça tient
les
bien.
Les vrais jeans, oui, c'est vrai ça.
Bref, faut pas les laver trop souvent.
Non. C'est unifugé aussi, vous saviez ? Ça prend pas feu.
Ah, bah, ça va me servir.
Ouais.
Bah, pourquoi ?
Non, parce que je suis très maladroite et j'allume souvent des bougies.
Ah oui, d'accord. Ah.
Mais j'ose pas le faire quand je suis en jean, du coup.
J'ai cru que c'était rapport à la formation de pyrotechnicienne que vous suivez actuellement.
Ah oui, aussi.
Et donc, oui, Jack Suit qui remarque hein, le petit George Brumel à une des soirées mondaines de John Winchester. Et notamment une soirée où, où le petit Georges, hein, qui est âgé de 16 ans, a décidé de ressortir sa plus belle brumelière. Jack va être instantanément conquis par cette création
originale
vestimentaire, et va lui demander de travailler, de collaborer avec lui.
Alors, pour la petite anecdote quand même, Jack Suit, qui veut dire Jack Costume, donc le destin est vraiment en marche dans cette rencontre, hein, encore une fois.
Quelle forme prend la relation entre les deux personnages au fil du temps? Quel type de collaboration on a? Est-ce que c'est simplement Georges Brumel qui vient en tant que participer aux petits travaux du premier, ou est-ce qu'on voit une relation plus forte se construire?
Ça devient un peu un mentor. C'est ça. Hein. Il a 16 ans, Georges est en train de passer à l'âge adulte, il se cherche, sa référence masculine, hein, qu'il n'a évidemment pas avec son père, qui est parti depuis bien longtemps.
Il est mort de la tuberculose quand il avait 4 ans.
Et il était déjà parti avant en plus, donc il est mort loin de son fils.
Il s'est barré, il
l'a abandonné, et en plus il est mort de le karma. Et donc... C'est vrai que là arrive dans sa vie une autorité forte, une assurance qui le prend littéralement sous son aile.
Et oui, parce que Jack Suit aimait porter des vêtements excentriques et il s'habillait régulièrement en oiseau. Et donc, il avait littéralement Georges Brumel sous son aile la plupart du temps. Georges qui le conseillait dans ses choix de direction artistique. Et c'est un moment où Georges se dit qu'il est temps de marquer la mode. La grenouillère, ça va, mais c'est un petit peu simple. C'est un petit peu compliqué aussi à faire porter. C'est simple comme vêtement, mais c'est compliqué à faire porter à une grande partie de la population. Il se dit qu'il faut qu'on définisse le style de demain. Et à ce moment-là...
Il a l'idée en partant à une... Le grand idée, je pense que c'est là où vous allez,
Julien.
Il a l'idée en... Effectivement, Jack Suit s'habille beaucoup avec des vêtements excentriques qui rappellent les oiseaux. C'est parce qu'il est passionné d'ornithologie. Mm-hmm. Il est lui-même ornithorynque.
Professeur en ornithologie agréé, on le rappelle.
Tout à fait. Et donc il emmène un jour Georges dans les forêts près de Londres, où ils vont voir les oiseaux, et notamment pas n'importe lequel oiseau.
Le pingouin. Et oui, quand on parle, tout le monde associe le costume trois pièces à cet oiseau, c'est le pingouin. Bah oui, parce que noir et blanc. Blanc devant, noir sur les côtés, avec des petites ailettes, c'est évidemment l'inspiration majeure du costume trois pièces.
Imagine s'il était tombé sur un perroquet.
Ça aurait été... Le monde s'en serait mieux porté, à mes yeux.
Oui, beaucoup plus coloré.
C'est ça que vous êtes très coloré, Julien.
Merci. J'essaie d'abord
vous êtes très élégant aujourd'hui.
Un plumage flamboyant chaque fois que je viens au studio.
C'est superbe.
Et le nom costume trois pièces, on peut dire aussi d'où ça vient.
Oui, du fait qu'ils habitaient dans un T3 avec sa mère.
Ce qui était, c'était une grande réussite à l'époque, parce qu'un T3 pour deux personnes...
En plein centre de Londres, aujourd'hui, ça vaut bonbon.
Oh là là, c'est cher. J'ai voulu prendre un Airbnb l'autre jour, c'est pas possible.
Nous, à Greenwich, on n'a pas pu, parce que c'était trop cher. On a dû partager une chambre d'hôtel à deux.
Oui.
Ah oui. Et puis, c'est dommage, parce que quand on va là-bas, c'est pas juste pour se mettre dans un Airbnb. On veut consommer, évidemment. Hein. Il y a plein de petits pubs à visiter. Donc, si on n'a pas les moyens de se payer une bonne bière, c'est fort dommage. Ouais.
Du coup, ce jour essentiel pour la vie de Georges Brumel, la rencontre avec le pingouin, est-ce qu'il était habitué des eaux ou d'autres espaces, ou est-ce qu'il avait déjà vu un pingouin avant de le rencontrer dans cette forêt près de Londres?
Ah non, et c'est ça qui le bouleverse et qui lui fait directement aller vers cet animal-là et qui lui donne l'inspiration pour ce costume trois pièces. C'est effectivement qu'il n'a jamais vu de pingouin de sa vie.
Et là, ça fait clic, quoi.
Ça fait clic.
Ça fait clic.
Il est écrit que Georges, dans les mémoires de Jack Suit, que Georges, en ce jour du 18 octobre 1801, il a maintenant 23 ans, décide de... Enfin, est complètement pris de frénésie, va s'isoler dans le petit T3 où il habite encore avec sa mère et n'en sort pas pendant 2 mois.
Alors, justement, ce passage-là où il revient avec le pingouin chez lui Il le présente, évidemment, pour prendre les mesures, etc. Et qu'il retourne voir sa mère. On en a fait des films. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en écoute un extrait.
Georges, mon chéri, il va falloir que tu sortes ici.
Non, maman, je suis désolé, je suis sur une création en ce moment, je peux pas sortir. Est-ce que tu peux éloigner le pingouin du feu, s'il te plaît?
Bouge, s'il te plaît. Va-t'en, volaille. Georges, je suis malade, mon chéri. Je suis malade et si tu ne vas pas travailler, nous n'aurons pas d'argent. Si nous n'avons pas d'argent, nous n'aurons plus ce détroit, Georges.
Mais maman, je suis sur un gros coup là. Là, je peux te dire que ça va être fantastique ce que je suis en train de faire. Regarde, j'en suis à 2 pièces. Mais quand ça sera arrivé à 3 pièces, regarde par rapport au pingouin. Regarde la similitude.
Georges, même le pingouin n'a plus rien à manger. Et dans une semaine, tu n'as pas terminé. Tu n'auras plus de mer, plus de pingouin. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, Georges?
Non. C'est pas ce que je veux, maman. Je suis désolé. Je suis complètement parti en vrille avec mon travail. Je vais aller servir je vais aller servir auprès de la maison de quartier de Greenwich. Ça va, maman?
Pas trop.
Enfile ce costume 3 pièces. Il te tiendra chaud. Et serre-toi au pingouin.
Donc là, ce qu'on voit, c'est un moment d'histoire où c'est assez critique dans la vie de Georges Pommel. Il s'est concentré des semaines, des mois durant à la création de ce qui deviendra plus tard le costume 3 pièces. Et il y a le moment charnière où il faut qu'il décide. Soit il abandonne tout pour trouver de l'argent pour le foyer familial, finalement. Soit il continue. Quelle décision est-ce qu'il va prendre ?
Là, il n'en était effectivement encore qu'il n'avait encore que 2 pièces qu'à ce moment-là. Il lui manquait la salle de bain dans son costume, pour continuer la métaphore de l'appartement.
Oui, mais dans le costume, il lui manquait le veston.
Mais oui, le veston, qui était un élément central. Et c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'à la base, il y avait aussi un bec. Parce qu'il avait vraiment copié le pingouin jusqu'au bout, il y avait le bec dans le costume. Mmh. Et ça, il l'a abandonné en cours de route.
Mmh. Mais ça a donné quand même quelque chose, ça. Je sais pas si vous savez.
Ah oui, pendant le...
Ça a donné les petits chapeaux de fête avec des élastiques qu'on peut mettre...
Qui sont portés dans les balles ensuite.
Oui, il sortira ça plus tard en retrouvant le prototype du bec de pingouin.
J'en parle pas
bureau.
Beaucoup parce que ça coupe un petit peu la circulation avec les élastiques qui sont très fins.
Oui, non, quand on a des problèmes de circulation sanguine, il faut éviter apparemment.
Mais c'est festif, c'est vrai. Moi, je me sens souvent à part quand j'en porte pas dans les soirées. Bah bon.
Et donc, c'est forcément un moment compliqué dans sa vie. Hein. Sa mère est malade, ils n'ont plus d'argent. Il lui reste encore du travail pour achever ce costume. Le pingouin ne se sent pas bien. Georges est face à un choix.
Georges est face à un choix et en fait, depuis le début, il n'ose pas dire à son mentor, Jack Sude, qu'il a des problèmes d'argent.
Beaucoup de fierté. Hein.
Beaucoup de fierté, énormément. Hein. Le surprise child n'ose pas montrer cette part de faiblesse qu'il a en lui et ce milieu défavorisé d'où il vient.
Et c'est là que sa maman, on s'en serait douté, finalement, décède.
La tuberculose aussi.
Sale maladie, ça aussi.
Très répandue à l'époque.
Très répandue à l'époque, un gros rhume.
Le pingouin également décède.
Oui.
Un accident de voiture.
Ça, oui, complètement différent. Une des premières voitures, en plus. Je ne sais pas si vous savez l'anecdote.
Une calèche.
Et c'est vrai que, comme dans tout grand destin, hein, c'est quand on perd tout qu'on retrouve, qu'on trouve les ressources en soi.
Vous voulez dire, c'est quand on touche le fond.
Qu'on va jusqu'à la surface de la piscine, oui.
Ouais. Ou quand on s'approche trop près du soleil.
On se prend un gros coup.
Non, celle-là marche peut-être moins bien.
Oui.
En tout cas, les dés sont jetés à ce moment-là.
Bien sûr, jetés à ce moment-là.
C'est plus clair. Et de toute façon, on se doutait du choix qu'il avait fait, puisqu'aujourd'hui, si les costumes 3 pièces existent, c'est bien parce qu'il a abandonné sa mère. Et en même temps, choix difficile, mais salutaire pour le monde. Hein, parce qu'on ne serait pas bien habillé s'il n'avait pas laissé sa mère mourir, qui de toute façon serait morte. Hein, tuberculose, c'est difficile à l'époque.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais les 3 pièces du costume... ont tous un nom. La première, c'est le veston s'appelle le George. Le George. Mm-hmm. Le pantalon s'appelle le Penguin. Mm-hmm. Et la veste s'appelle Mother.
Ah oui, la Mother, oui. Ouais. Très émouvant, oui. Mm-hmm.
Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas donné le prénom de sa mère. Qu'il l'ait appelé juste Mother, parce qu'il a donné son propre prénom
oui,
à Veston.
Oui, mais en même temps, parce que c'est comme ça qu'il l'appelait.
Oui, et le pingouin également, il l'appelait par...
Je sais qu'il y a des gens qui appellent leurs parents par leur prénom, moi je trouve ça terrible. J'aime beaucoup appeler ma mère maman et mon père papa. C'est quelque chose qui me rapproche beaucoup d'eux.
Non, mais j'aime aussi, mais je trouve que si je devais leur laisser quelque chose à la postérité, peut-être que je leur appellerais par leur prénom.
Oui, mais du coup, on ne sait pas qui les a appelés comme ça. Alors que là, c'est très clair, c'est forcément son fils, puisqu'il l'appelle Mother.
C'est vrai que s'il avait appelé Sylvie, le doute aurait persisté.
C'est vrai que dans votre dernier papier de recherche, vous avez mis à ma mère et vous avez mis son prénom, effectivement, dans les remerciements.
Oui, mais j'ai mis les deux.
Ouais.
Ah oui, ouais, mais alors, ça fait un long nom de veste si on fait ça après.
Oui, bien sûr.
C'est vrai.
Donc, le costume de trois pièces est terminé. À ce moment-là, si je comprends bien, avec les trois pièces qui sont in fine nommées, ce qui est l'acte final, quand on réalise un vêtement, on donne des noms aux pièces qu'on a créées. Comment réagit le public face à ce nouveau vêtement qui est présenté? D'ailleurs, comment se déroule la présentation de ce vêtement? On sait comment ça se passe aujourd'hui, il y a des grandes présentations, il y a les médias qui sont là, etc. Comment ça se déroulait à l'époque?
Jack Suit, hein, toujours, hein, il est là, il est derrière, c'est lui qui a le réseau, hein, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est ça, hein, c'est lui qui a les contacts, c'est lui qui sait nommer les choses pour les rendre in, les rendre cool, hein, j'utilise des mots anglais mais que tout le monde comprend. Effectivement, c'est nommer, c'est faire exister, hein, comme vous le dites bien, Guillaume. Et c'est parce qu'il nomme, parce qu'il lui donne ses lettres de noblesse, Jack Suit, que le costume va finalement fonctionner. Est-ce que ça aurait fonctionné sans cette communication, cette conviction que c'est un objet rare qu'il faut se procurer? Peut-être pas. Finalement, l'art, c'est aussi la façon dont on vend l'art qui lui donne sa valeur.
Et d'ailleurs, pour revenir à ça, la façon dont on vend l'art, il y a le Surprise Child qui fera quand même une surprise aussi le jour où le suit est annoncé. Il y avait un bal et il décide de faire sa dernière grande surprise. C'est que comme il est venu au monde dans son costume d'Adam le jour de sa naissance, il va refaire une mise en scène de sa venue au monde lors de ce bal, mais cette fois dans son costume de pingouin. Et pour montrer au monde que finalement... il y a deux costumes qu'on porte dans la vie, c'est le costume d'Adam et le sien.
Deux costumes qu'on porte dans la vie, le costume d'Adam et le sien, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à Georges Brumel, premier dandy de l'histoire. Vous retrouvez l'émission en podcast sur Prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.